Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, jeudi, la marche des sciences par Aurélie Luneau.
Du 25 août au 3 septembre dernier s'est tenue à Copenhague la 4e Assemblée générale de l'Union internationale pour la protection de la nature. Des savants de toutes disciplines, des botanistes, des sociologues, des zoologistes, des agronomes, des géologues, ont dressé le dernier bilan de la dévastation croissante que subit en ce moment notre globe. La vérité est qu'il nous faut promouvoir à travers le monde un vaste mouvement pour la défense de la nature. Et la présente émission ne sera ce soir que son porte-parole.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette marche des sciences, vous l'avez compris, spéciale biodiversité. Si en 2009, Copenhague fut placée sous le feu des projecteurs en accueillant le sommet de l'ONU sur le climat, eh bien 55 ans plus tôt, vous venez de l'entendre, c'était en 1954, la capitale du Danemark était déjà choisie pour recevoir les participants à la 4e Assemblée générale de l'Union internationale pour la protection de la nature. Un rassemblement de scientifiques et de militants inquiets déjà pour l'avenir de la planète et de sa diversité biologique. Et dans le prolongement du dernier sommet de Copenhague, l'année 2010, déclarée Année internationale de la biodiversité par l'UNESCO, sera un des temps forts de notre calendrier à tous, spécialistes ou citoyens. Beaucoup d'organisations, d'associations, de muséums, de fondations se sont associés pour unir leur savoir-faire et leur expertise. Mais le compteur tourne et la maison brûle. Aujourd'hui, on a recensé près de 1,8 million d'espèces différentes et on estime qu'à l'horizon 2050, un million pourrait peut-être avoir disparu. C'est donc une course contre la montre pour les scientifiques, car au cours des dernières décennies, ils ont pris conscience de l'immensité de la biodiversité. Avec 16 000 nouvelles espèces décrites chaque année, il leur faudrait 500 à 1000 ans pour en achever l'inventaire. Et dans le même temps, de nombreuses espèces vivantes s'éteignent, souvent à cause de l'homme. L'état d'urgence est donc déclaré. Mais depuis quand s'est-on alarmé de la situation? Alors que le coup d'envoi politique de cette année internationale a été donné à Berlin le 11 janvier dernier, que le lancement scientifique aura lieu à Paris du 25 au 28 janvier au siège de l'UNESCO, nous avons décidé de revenir aujourd'hui sur l'histoire de la biodiversité et de ses acteurs, sur les premières études du tissu vivant de la planète, sur les techniques utilisées et sur la façon dont on a tenté, dans un temps reculé, de s'organiser face aux dangers pour l'environnement et les écosystèmes. Autant de questions que nous allons soulever aujourd'hui avec Gilles Boeuf, océanographe, professeur des universités et président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et Jean-Marc Drouin, philosophe et historien des sciences au Muséum national d'histoire naturelle. Il est l'auteur de L'écologie et son histoire, paru chez Flammarion. Menace sur le vivant, donc, la diversité biologique à la tête sur le bio, pour reprendre l'intitulé d'un article paru dans l'Humanité le 7 janvier dernier. Les titres de la presse sont alarmants et les équipes scientifiques sur le pied de guerre, comme celle du Muséum National d'Histoire Naturelle, n'est-ce pas Gilles Boeuf? Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous en êtes le président.
Tout à fait, nous sommes tout à fait sur le pied de guerre et conscients de notre responsabilité cette année pour informer, faire comprendre et proposer bien sûr des mesures de gestion.
Parce que cette année est une année clé. J'ai rappelé que l'année 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité et qu'il ne faudra pas que tout cela s'arrête en décembre, bien sûr.
C'est très fort, c'est le message que l'on veut faire passer. Nous initions quelque chose. Nous espérons qu'enfin, nous serons capables d'expliquer d'abord ce qu'est la biodiversité. Deuxièmement, pourquoi il faut impérativement la protéger. Les gens ont assez bien pris conscience aujourd'hui du problème climat. Ils n'ont pas du tout le même sentiment vis-à-vis de l'érosion de la diversité. Je pense que si on arrivait déjà à faire passer le message, et deuxièmement, bien sûr, nous aider tous à communiquer, faire prendre conscience des problèmes et expliquer que tout le monde peut participer à ce sauvetage. Et tout ça, c'est vital si on veut survivre.
Alors, il y a un chiffre que je n'ai pas donné dans cette introduction de l'émission. C'est le pourcentage de l'ensemble de la biodiversité. C'est-à-dire, nous, on estime, on connaît 1,8 million d'espèces, mais on estime que l'ensemble de la biodiversité représente combien de millions ?
Alors, depuis quelques jours, on a un article qui est sorti la semaine dernière qui dit 1,9, donc on avance un petit peu. C'est 1,9 million aujourd'hui, officiellement, déposés dans les musées. Quand on dit à 9 millions d'espèces, on y met tout. On y met les virus, les bactéries, les protozoaires, les fongi, les plantes et les animaux. Alors, les estimations de la diversité aujourd'hui sont très difficiles à faire. Bon, déjà, il faut voir si on tient compte effectivement des bactéries, des micro-organismes ou pas.
Oui, parce qu'on a des chiffres qui vont de 5 millions à 50 millions.
Voilà, c'est à peu près la fourchette. Même on est allé jusqu'à 100 à une époque. Bon, si on prend effectivement l'avis métazoaire élaboré, des chiffres tourne autour de 14 ou 15 millions d'espèces qui existeraient aujourd'hui, ça représente 1,5% de l'ensemble des espèces vivantes, apparues puis disparues, qui ont vécu sur la Terre. Et notre grosse question aujourd'hui, depuis le début, c'est comment, on ne demande jamais pourquoi la nature, mais comment la nature a-t-elle été capable, en un peu moins de 4 milliards d'années, d'élaborer largement quelque chose comme 2 milliards d'espèces, dont 14 millions ou plus nous accompagnent encore aujourd'hui.
D'où la nécessité aujourd'hui de revenir sur l'histoire, la grande histoire de la biodiversité, de mieux comprendre cette science du vivant. Et vous ne direz pas le contraire, j'imagine. Jean-Marc Drouin, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'auteur de L'écologie et son histoire, paru chez Flammarion, c'était en 93. Je l'ai dit, vous êtes philosophe et historien des sciences et vous êtes toujours intéressé à cette, non seulement à cette connaissance de la biodiversité, mais aussi à sa transmission.
Oui, la transmission à travers les musées qui sont à la fois des lieux de production de savoir, les collections sont de grands instruments scientifiques et en même temps ce sont des réserves de tout un langage d'objets avec lequel on communique au public. Donc la biodiversité c'est aussi une question de message, ce qu'un botaniste du 19e siècle résumait ainsi en disant « reprocher aux botanistes leur prolixité ». Ça serait comme reprocher à la nature sa prodigalité.
Alors, avant d'entrer dans l'histoire de la biodiversité, je vous propose un regard jeté sur le travail d'un spécialiste aujourd'hui du comptage de la biodiversité et plus précisément le comptage des éphémères. Il s'agit de Michel Brulin. Il est enseignant en sciences de la vie et de la terre au collège Les Saules de Guyancourt dans les Yvelines, un programme piloté par l'Office pour les insectes et leur environnement. Et il a proposé à notre reporter Céline Bézy de l'emmener sur l'un de ses territoire de travail, un cours d'eau, une rivière, l'Yvette, à Maincourt. Et c'était la semaine dernière et on imagine il faisait à peine 5 degrés dehors et 6 dans l'eau.
Alors le but de la manœuvre là est de racler, donc ici avec une passoire à riz, qui est un outil artisanal, mais qui est très pratique, donc avec des mailles très fines qui vont retenir les larves d'éphémères et d'autres insectes ou d'autres invertébrés aquatiques, parce qu'il y a d'autres invertébrés style des mollusques bien sûr, ou d'autres groupes d'insectes qui peuvent être pris, mais que je ne vais pas conserver, sauf si un collègue me demande de lui garder bien sûr des spécimens d'autres groupes que lui étudie ou que lui recherche. On peut imaginer que les premiers naturalistes ont utilisé des outils un peu du même type. Évidemment, donc la passeroire à riz, peut-être pas, mais au moins le filet troubleau, donc, c'est-à-dire une toile de jute, par exemple, autour d'un cerceau, et puis emmancher de manière à racler encore le substrat. Alors, voilà, donc ici, alors avec la passoire, là, je vais en dessous les... Alors évidemment, là, le souci, c'est qu'on a une rivière qui est un petit peu encroûté, ça veut dire que les pierres sont colmatées. Et bien voilà, un éphémère, une larve d'éphémère, vous voyez, au fond de ma passoire, donc je la mets dans le tube. Voilà, donc c'est une larve d'éphémère, vous voyez sa taille, c'est de l'ordre de 8 à 9 mm là. Une fois qu'on l'a mis dans ce tube d'alcool, qu'est-ce qui va lui arriver? D'abord, dès qu'on va revenir au bord, on va bien sûr placer une étiquette Ça, c'est le béaba, hein, le béaba de l'entomologie. Ça veut dire qu'à chaque fois où vous prélevez des individus, il faut savoir exactement le jour, bien sûr, le lieu de capture, le jour de la capture, à la limite, l'heure de la capture. Tant qu'elle est en alcool, il n'y a plus de problème. Les pièces vont être fixées, à condition de la garder quand même à l'obscurité, de ne pas la garder trop longtemps, parce qu'il y a des caractères qui peuvent être détruits, en particulier la coloration, bien que la coloration ne soit pas un véritable caractère, mais c'est souvent un petit indice, c'est souvent un petit appui qui nous permet de conclure à la présence d'une espèce ou d'une autre, de telle ou telle espèce. C'est en général ce qui se passe. Et donc ensuite, on va la regarder sous la loupe binoculaire et puis on va lui donner un nom, c'est-à-dire qu'on va lui donner le nom d'espèce qui lui revient. Le présent inventaire a commencé en 1995. Il est répertorié de manière officielle auprès des services du Muséum surnaturel en 1996. Mais le premier qui existait date de 1922, de Monsieur Lestage. Il listait donc quelques dizaines d'espèces, bien sûr. Actuellement, par rapport à l'inventaire de 1922, on a le double d'espèces. Donc on pourrait croire que cette diversité est en augmentation, mais en réalité, ce n'est que le point zéro. Ça veut dire que ces espèces devaient s'y trouver depuis très longtemps et que personne ne les avait jamais collectées ou jamais identifiées. C'est pratiquement les années 80 qui ont développé la recherche d'éphémères. Depuis d'abord qu'on s'est aperçu que ces insectes étaient très fragiles, que la plupart d'entre eux étaient très sensibles à la pollution. Et comme ils sont sensibles à la pollution, bien on les étudie de manière un peu plus stricte, un peu plus sérieuse, parce que leur disparition fait poser des questions sur la qualité du milieu aquatique et un peu plus loin la qualité de l'eau. Voilà, donc je vais prendre mon petit calepin. Voilà, donc le 14 janvier, je vais mettre Maincourt sur Yvette. Je vais mettre le lavoir. Donc nous sommes au lavoir de Maincourt. Il est 15h. 15h, voilà, je vais mettre quelques larves. Surtout sous les pierres et les graviers.
Voilà, c'était un reportage de Céline Bézi en compagnie de Michel Brulin à la recherche de ces éphémères. Alors Gilles Boeuf, quand on entend ce genre de reportage, on a le sentiment que finalement on travaille encore aujourd'hui avec des méthodes presque ancestrales. C'est une idée ou parce que la passoire à riz, les filets
C'est tout le charme en fait du monde associatif qui est depuis très longtemps en fait associé, c'est le cas de dire, avec le muséum. Je pense que nous sommes la seule institution en France à être capable de mobiliser autant de passionnés de terrain qui nous sont extrêmement utiles. Il est clair que quand vous sommez tous ces travaux qui sont faits de façon individuelle ou par des petits groupes de gens, ça finit par faire de l'information vraiment remarquable. Alors notre travail à nous, c'est d'abord de donner confiance à ces associations, d'arriver effectivement à les stimuler, à les réunir et surtout de tirer une synthèse des travaux qu'ils font. Et quand vous mettez en même temps des gens de cette qualité travaillant dans des milliers de petits ruisseaux en France, ça finit par faire de l'information extrêmement utile pour nous. Donc on a mis en place tout un système d'organisation. Par exemple, il y a le suivi temporel des oiseaux communs, Vigie Nature, on travaille sur les chauves-souris, on s'intéresse beaucoup aux papillons de jardin. Et ça nous donne effectivement un ensemble de données extrêmement utiles et on travaille sur des questions d'évolution du milieu. Par exemple, comment les oiseaux se sont-ils adaptés au réchauffement global depuis une trentaine d'années? On fait de la modélisation, on prévoit ce qui se passe. Et on va se rendre compte sur les oiseaux en ce moment, par exemple, qu'ils n'ont pas fait la distance qu'ils auraient dû faire vers le nord, correspondant à l'augmentation de la température. Donc, ça donne de très bonnes idées sur des schémas. L'hypothèse séduisante, c'est de dire déjà, ils s'adaptent. La plus délétère, ce serait de se dire ils ne sont pas capables de suivre et ça va se finir très mal. Donc tout ce monde associatif est extrêmement utile pour nous. Pour revenir sur l'aspect de biodiversité qu'on évoquait, je pense qu'il faut qu'on la définisse, surtout en expliquant que ces inventaires sont absolument indispensables, mais ce n'est pas ça uniquement la biodiversité. C'est surtout pas, il faut extirper cette idée en fait, du crâne de beaucoup de gens qui pensent que c'est simplement le fait de compter des espèces, de les mettre en évidence. En fait, je dirais que ça fait partie, mais beaucoup plus intéressant, c'est l'ensemble de toutes les relations que le vivant a été abordé entre ces différentes espèces. C'est vraiment ça la biodiversité, c'est la complexité de la vie en fait. Elle a une histoire depuis que la vie existe sur cette planète, bien sûr.
Alors revenons aux origines, Jean-Marc Drouin, le mot biodiversité, on a le sentiment qu'il apparaît, qu'il est surtout popularisé dans les années 80, mais il y a une préhistoire à cette biodiversité. À quand peut-on la faire remonter? Est-ce que c'est le siècle des Lumières?
Il y a la chose, il y a l'idée et il y a le mot. La chose, je veux dire la réalité de la biodiversité, elle a existé avant même qu'il y ait des hommes pour la penser. L'idée, on peut dire qu'il y a eu construction de concepts, d'outils intellectuels, d'outils matériels aussi, de pratiques théoriques et productives qui cherchaient à s'appliquer à des choses qu'ensuite on appellera la biodiversité.
Donc les pionniers.
Alors, et puis ensuite, il y a la biodiversité, comme vous l'avez dit.
Telle qu'on la connaît depuis les années 80. Voilà.
Les pionniers, incontestablement, Linné et Buffon, les deux grandes figures du XVIIIe siècle.
Carl von Linné, qui était naturaliste suédois, et donc lui qui est né en 1707, donc c'est vraiment le XVIIIe siècle.
Voilà, et Buffon est né la même année. Ce qui fait qu'il y a deux ans, au muséum, nous avons célébré on peut sourire des commémorations, mais c'est une occasion de tirer tous dans le même sens et de faire converger les efforts à la fois d'érudition et de transmission des connaissances. Et c'était ces deux figures de naturalistes, Buffon qui est avant tout des idées audacieuses, l'histoire de la Terre, les comportements d'animaux, une histoire naturelle qui est faite d'histoire au pluriel, naturelle au pluriel, et puis Linné qui donne des règles pour décrire, classer, nommer, et qui le fait sur les espèces connues de son temps, ce qui fait qu'il donne l'outil de base de ce qu'on appelle la systématique.
La systématique binominale, c'est ça? C'est-à-dire qu'on on donne le genre et l'espèce et on établit
nous
des listes et des collections. Homo sapiens.
Mm-hmm. Il y a eu d'autres homos, Homo neanderthalensis, Homo erectus, etc. Et puis la mésange bleue, c'est Parus major, Parus ceruleus, la mésange bleue, Parus major, la mésange charbonnière. La pâquerette, c'est Bélis perennis. Enfin, il y a toujours comme ça un nom de genre et une épithète, et en latin.
Et une méthode qui, assez rapidement, va être, est-ce qu'on peut dire, remise en question? Parce qu'on parle de méthodes qui vont se faire face au fil du temps, celle de la systématique à la Linné, et une autre qui entend aller plus loin, donner des analyses, des causes, des origines du mode d'existence. Bon, là, parce que Linné et Buffon n'avaient pas la même approche quand même du travail à mener.
Disons que Linné va l'emporter du point de vue de la manière de nommer. Les noms linnéens, le code, en quelque sorte, reste linnéen avec ensuite des perfectionnements, des cas litigieux, douteux, des synonymies, des règles pour résoudre les petites difficultés. Mais le principe reste celui de Linné. Par contre, les 24 classes dans lesquelles Linné classait les plantes, on a gardé la cryptogamie, celle dont on ne voyait pas comment elles faisaient leur mariage à l'époque, puisqu'elles n'avaient les plantes qui n'ont pas d'étamines, les fougères, les lichens, les mousses, etc. Et puis, à Paris en particulier, et donc un peu dans l'ombre de Buffon, les Jussieu, entre autres, vont vouloir développer une classification qui repose sur la morphologie, sur la structure profonde de la plante, même si c'est plus difficile à déterminer. Il est beaucoup plus facile de classer dans les 24 classes du système sexuel de Linné. Ça serait, rentrer dans les détails serait trop long ici. Mais Jussieu, puis Cuvier, puis ensuite avec les théories de l'évolution de Lamarck ou de Darwin, la classification va être porteuse d'un contenu. C'est-à-dire si on dit le dauphin est plus proche de la vache que du requin, et ça a un sens. Alors, ça a un sens soit d'une affinité de structure, c'est fait sur le même patron, on pourrait dire, ou ça a un sens généalogique. Ils sont plus proches parents entre eux que...
Alors, il y a ces hommes, ces professionnels de la classification, Gilles Boeuf, mais il y a aussi les aventuriers, ceux qui vont pouvoir nous donner plus d'informations, accroître nos connaissances sur la biodiversité à travers soit les grands voyages, il y a les échanges, l'expansion coloniale. Tout ça va faire progresser aussi cette connaissance. Et puis, sans oublier les cabinets de curiosité.
Bien entendu, tout à l'heure, ce garçon qui a inventorié ces éphémères d'un petit ruisseau parisien, il est relié maintenant par les grandes expéditions. Le muséum a travaillé en relation avec l'IRD et Pronatura International sur des grandes expéditions sur l'IFU 2002. On a un gros travail sur Dipsy Bintos, sur le profond. Une grosse expédition très médiatisée a été dans les Vanuatu Santo 2006. Là, en ce moment, on est sur Mossangaskar, Mozambique et Madagascar. Et nous préparons pour 2012 une très grande aventure en Nouvelle-Calédonie sur 3 sites marins et 3 sites terrestres. En fait, on fait un petit peu comme ce garçon tout à l'heure, mais avec des moyens considérablement plus grands, puisque nous avons des radeaux des cimes, des sous-marins profonds, des navires de surface avec ces submersibles et des moyens d'investigation beaucoup plus grands.
Et vous faites finalement comme ces grands explorateurs qui partaient sur le Bougainville, sur le Beagle du temps de Darwin.
La différence, c'est qu'on a les séquenceurs avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la systématique a totalement changé par rapport au temps de dîner, même si on continuera à donner un nom à une espèce. D'abord, on se rend compte que la notion d'espèce a beaucoup, beaucoup évolué. Par exemple, aujourd'hui, on est très difficile de préciser ce qu'est une espèce de bactérie ou de virus, ou même de micro-champignon. Donc, il nous faut absolument des outils moléculaires, et ça, c'est parti il y a une vingtaine d'années avec la biologie moléculaire. Donc maintenant, en fait, on dépose dans les musées le type, l'espèce décrite, avec une série de gènes que l'on a séquencés, soit dans les mitochondries, soit dans le noyau, on appelle ça le barcode of life, plus des travaux de phylogénie. Tout à l'heure, quand on parlait de proximité entre les espèces, ce qu'on regarde, c'est en fait comment l'analyse génétique nous renseigne sur ces proximités et sur les histoires évolutives communes. Par exemple, je prends le cas des cétacés que j'aime beaucoup. On a regardé dans les années 98 quels étaient les animaux terrestres les plus proches des cétacés. Et la génétique nous a dit l'hippopotame. Et c'est très beau parce que 3 papiers sortis en 98 nous disent l'hippopotame est l'animal terrestre aujourd'hui le plus proche des baleines. Et plus tard, des fossiles trouvés ensuite en 2001-2002 nous ont bien confirmé cela avec une approche morphologique de paléontologue. On a retrouvé des traces de mise en place de la cheville, entre guillemets, de ces espèces qui montrent effectivement leur histoire commune. Donc je pense que l'union entre la systématique classique de l'observation et de la forme s'unit aujourd'hui aux approches moléculaires et on a lancé une très belle étude qui s'appelle « Des gènes aux formes ». Quelle est la base génétique de l'évolution de ces formes? Alors à la fois, il faut se méfier beaucoup aussi des convergences. C'est toujours l'histoire de l'ichthyosaure qui était un reptile, des poissons, et puis d'oiseaux plongeurs ou de mammifères. Et c'est vrai que souvent, d'un environnement précis, les formes idéales de survie peuvent faire que les animaux se ressemblent, sans aucune parenté par ailleurs. Donc je pense que tous ces aspects-là en biologie sont éminemment évolutifs et éminemment plastiques. Et ces approches moléculaires modernes liées à la systématique classique sont extrêmement fructueuses pour faire des arbres de vie. L'homme adore classifier. Nos 3 milliards de neurones dans notre cerveau ont besoin de cela. Je ne sais pas si la nature a voulu classifier. Mais en tout cas, pour qu'on puisse la comprendre, c'est important. Et je terminerai en disant que identifier des espèces, c'est très important. Mais on n'a plus le temps aujourd'hui. On va voir la semaine prochaine à l'UNESCO une journée complète dédiée à ce qu'on appelle la métagénomique ou les métapopulations. En fait, comment est-on capable de mettre en évidence la biodiversité d'un écosystème sans être obligé impérativement de connaître toutes les espèces qui s'y trouvent? C'est une vraie question extrêmement importante qu'on peut résumer souvent, je discute avec mon ami Gouillon. Où y a-t-il plus de biodiversité? Dans 800 000 coléoptères connus ou dans 300 000 plantes? On ne sait pas répondre à cette question.
Ah oui, parce qu'il faut rappeler que si aujourd'hui on parle autant de la biodiversité, c'est parce que le rythme des disparitions s'est accéléré. Alors que Jean-Marc Drouin, du temps de ces grandes expéditions, du temps de Linné, de Buffon, de Lamarck, on en était à inventorier, à établir des listes et puis des formes d'analyse aussi, des façons de répertorier, de recenser et de classifier ces espèces. Mais à leur époque, on a commencé quand même à entendre des voix aussi qui s'affolaient un petit peu contre ce que faisait l'homme. Je pense par exemple à Bernardin de Saint-Pierre, alors connu pour son roman Paul et Virginie, mais il s'était justement inquiété du devenir de la planète.
Oui, il faut dire que ces prises de conscience restaient individuelles et il est significatif à ce point de vue-là que le mot inventaire, qui existait pourtant à l'époque, n'était pas employé. On disait des catalogues. Catalogue d'espèces, etc. Bon. Ce qui est assez joli parce que les physiciens, la révolution galiléenne, ça a été de considérer la nature comme un grand livre. Et les naturalistes le considèrent comme une bibliothèque dont ils font le catalogue.
Et donc ces catalogues, vous
alors,
disiez...
Alors cet effort de catalogage consistait à décrire, nommer, classer, mais aussi avec un but utilitaire, à transporter les plantes d'une région du monde dans une autre. Et beaucoup de ces transferts de plantes, nous n'imaginons même pas notre vie sans le tabac, sans la tomate, sans les plantes américaines, et de même dans les pays du sud, d'une région tropicale du globe à une autre région tropicale, des transferts ont été faits. Alors aujourd'hui, nous percevons les dangers de transferts non contrôlés, les effets secondaires qui peuvent être négatifs.
Et à l'époque, c'était la parole de certains qui pouvaient, tenter d'interpeller.
Voilà. C'est ce que vous dites. Alors Bernardin de Saint-Pierre craignait qu'on ait une approche trop isolée. Lui-même n'était pas un naturaliste, même amateur. Mais il reprochait à certains professionnels de ne saisir l'organisme que mort et isolé de toutes les harmonies autour. Et Michelet, l'historien au XIXe siècle, regrette des introductions non contrôlées, non pensées.
Eh bien, voilà. Justement, je vous propose d'écouter sa voix à ce moment-là, la voix de l'historien Jules Michelet, conscient que le rôle de l'homme sur la nature n'est pas toujours apprécié. Un regard et un franc-parler.
Un fait immense au dernier demi-siècle a changé notre Europe. L'invasion subite, aveugle et effrénée, de toutes les flores étrangères. L'acacia vint avant ma naissance. Enfant, je vis entrer dans un temps déplorable le triste hortensia, jeune, le vulgaire dahlia, homme, le fuchsia, et tout à la fois 100 000 plantes. Beaucoup sont déjà dégénérées, telles exquises chez elles, ici vivant d'engrais, devenues grosses et grasses, sont maintenant tout ornementales, fleurs grossières de décoration. À la vraie flore française, un peu pauvre, il est vrai, mais charmante, exquise, épouse légitime de notre esprit national, ont succédé ces concubines que la culture pousse à grossir, à prendre les voyantes couleurs qu'aime la barbarie de ce temps.
Alors, Jules Michelet. Jules Michelet, voilà, c'est un texte précisément qui date de 1868, extrait de son livre La Montagne et lu par Emmanuel Lemire. Jules Michelet, contemporain du 19e siècle, est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc Drouin, que c'est le 19e siècle, qui est véritablement le siècle de cette contestation ?
Ça reste encore très isolé. Ceci dit, je voudrais insister sur le fait que ce texte, le passage qui en a été lu, pourrait faire penser à des rapprochements avec certains débats sur l'identité nationale.
Et ce n'était pas le but aujourd'hui.
Ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que quelques pages plus loin, il précise que les plantes européennes tendent à éliminer les plantes américaines au même rythme. Et il cite là-dessus des botanistes qu'il avait constaté que l'avancée des Européens a fait reculer les Indiens.
Et il précise quand même aussi cette façon de l'homme, effectivement, de dénaturer cette nature. Donc c'est quand même un cri lancé. Il y a eu d'autres cris qui ont été lancés. Alors individuellement, comme vous le dites, comme par exemple Jean-Baptiste Lamarck, j'ai envie de vous faire écouter tout de suite un extrait de son fameux Système analytique des connaissances positives de l'homme, publié en 1820. Retenez bien cette date. Écoutez.
L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables et les détruit de toutes parts et sous tout prétexte. En sorte qu'on voit des populations, autrefois considérables, s'appauvrir de plus en plus. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable.
1820, Gilles Boeuf, ce texte de Jean-Baptiste Lamarck.
Ah oui, c'est tout à fait visionnaire. Et c'est intéressant parce que on parlait de Darwin, et c'est vrai que lorsque Darwin naît, Lamarck avait déjà 60 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et
il est mort en 1829.
C'est ça, oui. Donc c'est vrai qu'il a été un des premiers, en fait. Bon, le mot évolution, hein, je crois que parce qu'on a souvent en fait beaucoup de mal à Lamarck, parce que lorsque Darwin est sorti, pour différentes querelles d'école, on y revient maintenant de façon d'ailleurs pas forcément meilleure.
Puisque oui, parce qu'on a quand même oublié Lamarck par rapport à Darwin, alors que Lamarck était un des précurseurs lui aussi de l'étude de l'évolution.
Il a créé le mot. Hein, et le débat du transformisme, beaucoup d'aspects comme ça, ont été lancés à ce moment-là. Bon, Darwin, d'ailleurs, moi je ne connais pas trop quel était le niveau de connaissance de Lamarck qu'avait Darwin. Il connaissait certainement, j'en suis absolument certain.
Oui.
Ceci étant dit, on lui a fait du mal. Alors on y revient maintenant et ce n'est pas forcément mieux, parce que maintenant qu'on a effectivement découvert des évolutions moléculaires qui ne sont pas uniquement liées à la sélection naturelle sur ces gènes, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors du coup, de façon très manichéenne, on dit maintenant c'est lui qui avait raison. C'est un peu trop simple en fait. Hein. En biologie, vous savez, rien n'est noir ou blanc. C'est toujours un mélange de quelque chose. La nature, elle est viscéralement anti-extrémiste de toute façon. Donc, on va trouver des choses. Et ces mots adaptation, évolution sont absolument fondamentaux. Et Lamarck a beaucoup contribué à cette évolution. Il l'a fait bien avant Darwin. Darwin est parti sur une base tout à fait différente au niveau des connaissances de ce qu'avait Lamarck à l'époque.
Il a cette prise de conscience de la détérioration de la nature par l'homme, quand même. En 1820, c'est assez exceptionnel.
Oui, on trouve les premières traces, par exemple, de mesures de protection de la faune et de la flore aux États-Unis dès 1890. Hein. Je retrouve des textes, par exemple, sur la protection des grands conifères ou des rivières à saumon. On se rend compte que l'homme blanc est arrivé et a massivement détruit ces populations de saumons migrateurs qui vivaient dans les rivières de Californie, d'Oregon, de Washington, parce qu'il est pollué par la pâte à papier, hein, l'exploitation de la cellulose. Et on trouve déjà, dès cette époque-là, des pionniers écologues qui disent qu'il faut qu'on prenne des mesures environnementales pour protéger ces populations de saumons.
Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les victimes sont les fautives cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit? Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires.
Non.
Elle va en accord avec la pollution des mers.
Non.
Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère.
Non.
Sauvons la Terre, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme comprend en sa planète.
Yeah.
La nature c'est la vie, la vie n'est pas une conquête.
Non.
Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chocs sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Comment pouvez-vous encore raser les forêts?
Ah, on est loin du style de Lamarck et de Darwin, mais enfin, c'est un message relativement efficace donné par le groupe rap Assassin dans une chanson intitulée L'écologie, sauvons la planète. Vous la connaissiez, Gilles Boeuf, cette
musique? Non, je ne la connaissais pas, mais je la découvre avec vous, je ne sais pas.
Et il est 14h33, vous êtes sur France Culture, c'est la marche des sciences en direct du studio 167 jusqu'à 15h et en compagnie de Gilles Boeuf, océanographe, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec également Jean-Marc Drouin, historien et philosophe des sciences. Nous sommes là pour une traversée dans cette première partie de l'émission, une traversée de l'histoire des origines de la biodiversité et de la prise de conscience aussi du danger qu'encourt le tissu vivant de la planète, mis à mal le plus souvent par l'homme, car je le rappelle, nous sommes entrés plus précisément depuis le 1er janvier dans l'année 2010, déclarée année internationale de la biodiversité par l'UNESCO. Alors Jean-Marc Drouin, on en était resté à ces pionniers, personnes qui individuellement sonnent un petit peu l'alerte. Donc il y a ces tentatives individuelles, mais il y a aussi des tentatives de créer des internationales. À un moment, on franchit le pas. C'est-à-dire que ces scientifiques, ces spécialistes vont tenter de déclencher des mouvements.
Oui, la création de l'UICN à Paris... montre le rôle qu'a eu la France là-dedans.
Alors, l'UICN, il faut rappeler...
L'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a des organisations internationales qui ont porté cette interrogation. Ceci dit, pendant longtemps, c'est resté marginal. Le mot écologie est assez ancien. Il date de la fin du 19e siècle. Et on a appelé âge d'or de l'écologie théorique la période de 1930 à 1940 où ont été élaborés des modèles mathématiques de base que M. Boeuf connaît bien.
Donc finalement, c'est l'écologie rejoint à un moment cette sensibilité, cette science, ce travail fait sur l'inventaire et sur le tissu vivant de la planète. Et l'écologie va venir croiser d'autres sciences qui vont se mettre ensemble pour faire un travail similaire d'inventaire, mais aussi un moment de protection, de sauvegarde,
de sensibilisation. Alors, il y a une Américaine qui a eu un rôle très important, qui est Rachel Carson, qui a imaginé un printemps silencieux, parce qu'il y aurait, par les abus des pesticides, qui a écrit aussi sur la mer.
C'était à quel moment, ça?
C'est dans les années de l'après-guerre. Après la guerre de 40.
D'accord. D'accord. Mais auparavant, moi, j'ai relevé certaines tentatives, par exemple, dès 1910, tentative de création d'une internationale pour la nature. En 1913, à Berne, une conférence internationale pour la protection de la nature qui réunit alors les délégués de 19 États. Mais voilà, la Première Guerre mondiale éclate et tout est renvoyé à plus tard. Il faut attendre le 1er juin 1923 pour qu'un congrès international pour la protection de la nature soit organisé à Paris. Alors là, il y a des mots qui sont utilisés, qui sont assez violents. On parle d'anéantissement général, de boucherie, de carnage, de destruction inutile, d'exploitation barbare, une guerre sans merci en 1923. Et puis, il faut encore attendre quand même. Ça prend du temps, hein, Gilles Boeuf, hein, toutes ces façons d'interpeller. 1931, un deuxième congrès, et puis après la Seconde Guerre mondiale, la volonté d'unir, avec la création de l'ONU, cette tentative aussi de rassembler.
Ce qu'il faut dire aujourd'hui, qui est assez effrayant, c'est que par rapport aux époques que vous citez, la population humaine a été multipliée par 4. En fait, en 1960, on atteint les 2 milliards d'humains. Lorsque l'homme s'arrête de bouger, d'être l'homme préhistorique chasseur-cueilleur, on est il y a 14 000 ans, 15 000 ans, on est 5 millions d'humains sur la Terre. Et à la Révolution française, on est 800 millions, on est 1 milliard en 1820-1830, on est 3 milliards en 1960, 4 en 70, ce qui veut dire que ça va très très vite. Donc par rapport à ces événements que vous citez, et puis ces mots quand même très forts, c'est notablement amplifié aujourd'hui par ces questions d'impact de la démographie. Et c'est vrai que demain, nous serons... Aujourd'hui, quand on parle ensemble, là, on est 6,7 milliards sur cette planète, et nous serons 9 milliards en 2050. Donc il faut absolument qu'on tienne compte de cela, bien évidemment, dans toutes les questions que l'on pose ici. L'acuité n'en est que plus grande des questions que l'on pose là. Alors en plus, on a des moyens de plus en plus destructeurs, hein, par rapport à 1920, je crois. Croyez-moi, on sait faire encore beaucoup mieux en matière de destruction. Mais aussi, on a des outils bien meilleurs aussi pour essayer de restaurer, d'arranger, et surtout, bien sûr... Mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est vraiment le discours de tous les écologues. Hein. Une espèce qui disparaît, il y a un philosophe chinois qui disait « il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire ». Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui on tienne compte de cela. Faisons tout pour que ça ne se produise pas. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, l'avenir risque d'être vraiment très sombre.
Alors justement, pour mieux sensibiliser, écoutons ce qui se passait en 1948, ce projet de susciter une forte coopération internationale, extrait de l'émission Tribune de Paris, elle date du 29 septembre 1948, et l'émission portait sur le thème « La protection de la nature est-elle nécessaire ?» On va entendre notamment la voix du docteur Charles Bernard de la Ligue Suisse pour la protection de la nature.
Je voudrais dire que nous espérons une union internationale où les gouvernements seront représentés et qui pourrait coordonner les mesures prises dans de nombreux pays en vue de protéger des objets naturels intéressants, des sites, des animaux, des plantes menacées de disparition à cause de l'extension des villes, à cause de la mise en culture de nouveaux terrains, de défrichement de forêts, de l'industrialisation exagérée, de certaines régions. On protège les oiseaux, on protège les autres animaux, on a des réserves naturelles comme les districts francs où la chasse est interdite et où les animaux peuvent se redévelopper et reconstituer le cheptel. C'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement français, en collaboration avec l'UNESCO, de convoquer cette conférence où pourra être constituée l'Union internationale définitive.
Une conférence qui va aboutir, donc heureusement, par un heureux événement, la création de l'Internationale pour la protection de la nature, le 5 octobre 1948 à Fontainebleau. Donc il y avait 18 gouvernements représentés, 7 organisations internationales, 107 organismes publics et privés. Et aujourd'hui, c'est une institution qui existe toujours et qui rassemble, pour vous donner une idée de cette évolution, puisqu'on avance, Gilles Boeuf, heureusement, mais pas suffisamment par rapport à l'enjeu. Aujourd'hui, c'est un organisme qui rassemble 90 États, 120 institutions publiques, 91 organisations internationales, plus de 800 ONG et qui dispose d'un réseau de 10 000 experts. Alors c'est ce moment-là, c'est octobre 1948, Jean-Marc Drouin, vous diriez que là c'est un événement, il se passe quelque chose ?
C'est une inflexion dans un processus continu, mais je pense aussi que il y a la reconstruction, la volonté de faire un monde plus juste qui se marque par la charte des droits de l'homme et tout. Mais peut-être, philosophiquement, on n'a pas mesuré toutes les conséquences d'une redéfinition des rapports de l'homme et de la nature. Le fait que l'homme fait partie de la nature et qu'en même temps, c'est notre propre espèce. Et donc nous avons sur notre propre espèce à la fois un regard réflexif, alors que sur le reste de la nature, nous avons un regard en partie plus extérieur, en partie réflexif, en partie extérieur, et que du point de vue éthique, nous avons des droits et des devoirs envers la nature, mais ça ne veut pas dire non plus accorder au reste de la nature tous les droits. Comme tous les droits qu'on accorde, il y a arbitrage entre des droits concurrents et...
Ce que vous dites, c'est que finalement, il y a eu au fil du temps une évolution de la prise de position de l'homme dans cette défense. C'est-à-dire, au début, il fallait défendre, enfin, se préoccuper de la nature parce qu'elle servait l'homme. Et qu'à un moment, il a fallu aussi regarder la nature comme une entité qu'il fallait préserver pour elle-même, pour l'environnement. C'est-à-dire, oui. C'est une évolution éthique.
Oui, ceci dit, un monde dans lequel il n'y aurait pas le virus du sida serait un tout petit peu moins varié, mais nettement meilleur. Donc, si je prends cet exemple caricatural, c'est pour dire que la biodiversité est une valeur fondamentale dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, auxquelles on ne donne pas encore toute sa place, mais ça n'est pas la seule valeur sur laquelle on peut reconstruire une éthique totale.
Gilles Boeuf, finalement, là, en approchant ces années 80-90, enfin, on peut aussi parler des années 60, puisque en septembre 68, il y a une conférence de la biosphère. Enfin, ce sont des années aussi qui sont marquées par l'arrivée un peu plus largement de l'écologie qui entre en scène. Là aussi, c'est un tournant pour l'étude de la biodiversité. Ça vient s'ajouter plus précisément dans la prise de conscience.
On voit une très forte maturation de la science écologique. Et on voit aussi la sortie de l'écologisme politique aussi, que je sépare bien. Mais pour moi, la grande date, c'est ça restera le sommet de Rio en 92 avec la création donc de la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par 190 pays aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas un traité, c'est une convention. Hein, donc tout le monde s'accorde pour faire quelque chose avec les moyens que l'on a. Donc on voit un petit peu les résultats.
Mais il n'y a pas obligation faite
non,
aux États de...
Mais ça a relancé totalement le dialogue Nord-Sud. Et c'est vrai que pour nous, pays du Nord, qui avons déjà quand même bien massacré notre environnement, vouloir imposer à d'autres une façon de gérer... Parce qu'on regarde ce qu'on a fait chez nous, c'est un petit peu compliqué.
Donc, on a vu qu'à Copenhague, décembre 2009, le discours passait mal.
Tout à fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte... Ces pays doivent se développer, c'est tout à fait évident, bien évidemment. Mmh. La question, c'est à quel coût environnemental. Donc demain, nous pourrons nourrir 9 milliards d'humains. Le gros problème, c'est à quel coût environnemental. Nous pouvons exploiter le nickel en Calédonie, on peut exploiter des choses par endroits. Quel coût est-on prêt à payer? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de disparition d'espèces qui sont là depuis toujours? Les implications sur la santé publique, tout à l'heure on parlait du sida, l'homme joue un rôle considérable aujourd'hui dans l'émergence de ces nouvelles pathologies. Le sida, ce n'est pas le fait du hasard. L'homme crée des conditions de dissémination et de virulence comme jamais aujourd'hui. Et les relations entre les pertes de diversité et l'émergence de ces pathologies est extrêmement importante. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est les maladies nosocomiales. Vous avez des salles d'hôpital où aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul être vivant. Une bactérie extrêmement banale, mais elle vous tue. Parce qu'en fait, elle est là pas par hasard. Donc si on ne recrée pas un équilibre dans ces conditions-là, l'homme contribue à des systèmes qui sont extrêmement dangereux pour lui aussi. On perd beaucoup, beaucoup d'espèces. L'homme aussi contribue aujourd'hui, non pas à créer des espèces, mais à diversifier des variétés qui peuvent lui causer des problèmes très sérieux en matière de micro-organismes pathogènes. Donc oui, c'est assez subtil et complexe. Les grandes raisons aujourd'hui qui nous font perdre cette diversité, elles sont de quatre ordres. La première, bien sûr, c'est la destruction et la pollution. La seconde, c'est la surexploitation des espèces. Et les grands exemples, ce sont la forêt tropicale d'un côté, les pêches maritimes de l'autre. Le troisième, beaucoup moins connu, plus insidieux, on l'a un peu évoqué, ce sont les espèces invasives. Si je prends le cas des plantes, en gros, on connaît 300 000 plantes sur la Terre. Il y en a 300 qui posent des problèmes réels, qui vraiment sont extrêmement embêtantes. Ça coûte 400 milliards d'euros par an d'essayer de s'en débarrasser et ça ne marche pas. Et la quatrième raison, bien sûr, c'est le changement climatique qu'on évoquait tout à l'heure, généré en partie par l'homme, qui crée ses contraintes sur les pertes de diversité biologique.
Alors après 92, c'est vrai, ce sommet de Rio, le sommet de la Terre qui avait été très très important. En 2002, a été un autre sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, et avec un engagement pris, celui d'arrêter le déclin de la diversité pour 2010. Nous sommes en 2010. Quel est votre sentiment à l'un et à l'autre, Gilles Boeuf ?
Alors là-dessus, vous savez, je faisais une conférence le 30 décembre 2009 en disant « Voilà, chers amis, dans deux jours, nous avons stoppé l'érosion de la diversité biologique. » Parce qu'en fait, à Johannesburg, on avait dit « On va freiner cette érosion. » Les Européens ont dit « Beaucoup mieux, nous allons l'arrêter. » Et même les pays qui ont signé cette convention et qui ont pris ces décisions sont très loin, bien sûr, d'être parvenus à le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais autant détruit. Alors, c'est inégal. On ne détruit pas partout de la même façon sur la planète. Les kilomètres carrés de forêt tropicale ou de récifs coralliens qui s'en vont sont beaucoup plus impactantes sur ces questions de diversité que les environnements européens. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut qu'on fasse passer aujourd'hui auprès des populations, des scientifiques, bien sûr, des hommes politiques et des hommes du public pour que vraiment, vraiment, on puisse réagir. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut commencer, même pas demain, tout de suite.
Jean-Marc Drouin, le mot de la fin. Le passé, est-ce que ça peut être un bon conseiller pour demain ?
Oui, parce que le passé nous montre des avancées, des impasses, des moments où l'homme a su négocier en quelque sorte un accord avec la nature extérieure à lui, et d'autres où il s'est fracassé dessus. La nature qui, comme on le voit tragiquement dans ces jours, reste ce qui nous menace aussi. C'est pas, la nature n'est pas uniquement belle et source de paix et de joie, elle est aussi porteuse de deuil et de violence.
Eh bien, pour en savoir plus, je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages, à l'un et à l'autre. Merci Gilles Boeuf. Hein. Je rappelle que vous présidez le Muséum national d'histoire nationale. Vous êtes aussi une des éminences grises, très, très demandées, sollicitées pour des avis auprès des politiques. Donc, on espère que vous parviendrez à faire avancer les choses cette année. On vous le souhaite. Vous êtes auteur de nombreux articles. On les mettra en ligne sur le site. C'est Catherine Donnet, l'assistante de l'émission, qui se chargera de vous donner tout pour tout comprendre sur l'histoire de la biodiversité et son état aujourd'hui. Mais je veux noter tout de suite et préciser que dans le livre « Un monde meilleur pour tous », vous avez rédigé un chapitre très très intéressant, un bon état des lieux de cette biodiversité. Un livre qui a été rédigé sous la direction de Jean-Pierre Changeux et de Jacques Hérès, publié chez Odile Jacob. Autre conseil de lecture, peut-être la biodiversité à travers des exemples, édité par le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. Deux numéros sortis, un en 2016 et l'autre en 2008. Jean-Marc Drouin, je rappelle votre livre « L'écologie et son histoire » paru chez Flammarion, c'était en 1993. Et pour les enfants, les adolescents, il faut préciser que Gallimard Jeunesse a sorti une nouvelle collection l'année dernière, la collection Totem. Et il y a un livre très très bien fait sur l'environnement. Donc l'environnement de Jean-Baptiste de Panafieux. L'agenda du muséum et tout ce qui va se passer cette année sera aussi sur le site de notre émission La Marche des Sciences sur franceculture.com. Et vous pouvez aussi retrouver ça sur le site